Icône de la cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod. Je corrigerai. Mais ce n'est pas encore ça pour l'instant. On regardera l'œuvre d'art tout à l'heure. Je vous invite à entrer dans ce deuxième temps de la journée autour de ce mot ensemble. Avec la porte ce matin du vivre ensemble par rapport à la constitution du peuple qui est la base et le fondement et le cœur même de ce qui fait notre identité d'Église aujourd'hui. L'Église est héritière de ce peuple de la première alliance. Elle n'en est pas une autre, elle en est de la même veine. Elle est issue de cette même origine. L'obsession de Dieu, le rêve de Dieu d'être en alliance avec l'humanité pour se donner ce lieu, ce mode d'expression de l'alliance, eh bien, il s'est donné un peuple qui permet à ceux qui le rejoignent de se retrouver membres de cette même communauté. Alors, évidemment, maintenant, en entrant dans des textes du Nouveau Testament, se pose non plus simplement la question de quel est ce peuple de l'Alliance, mais véritablement maintenant l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Comment est-ce qu'on s'y reconnaît? Et avant cela, même de se poser la question, qui a fondé l'Église? Jésus? Pierre, Paul. La naissance de l'Église reste un événement mystérieux dont le fondateur est difficile à identifier. Qui a fondé l'Église? Question peut paraître à première vue un peu iconoclaste dans la réponse, pour certains, tombe sous le sens. C'est Jésus, bien évidemment, qui a fondé l'Église. D'ailleurs, tout le monde connaît les paroles célèbres. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, dit-on dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. La phrase ne met pas seulement en avant la primauté de Pierre, elle dit surtout la volonté du Christ d'édifier une assemblée, autrement dit une église, son église. Et l'on peut entendre en écho les paroles de Jésus, répété solennellement trois fois au même Pierre dans l'évangile de Jean, paie mes brebis. Jean 21. C'est donc bien Jésus, n'est-ce pas, qui est le fondateur de l'Église et Pierre qui en est le chef. Voilà, mon exposé pourrait s'arrêter là. La réponse aurait été toute trouvée, toute claire, et nous aurions effectivement terminé cette réflexion autour du fondateur de l'Église. Eh bien, ce point de vue, un peu sommaire, a longtemps prévalu. C'est ce qu'on a dit très longtemps. Pourtant, un simple recul historique montre que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées, et que ce n'est même pas sûr du tout que Jésus soit le fondateur de l'Église. À la différence d'autres fondateurs, comme Bouddha ou Mohammed, Mahomet, si vous voulez, Jésus n'a pas eu le temps de construire ou d'instituer, encore moins de codifier. Il a été condamné bien avant. Tout au plus, il a pu poser des gestes, dont le plus fort est l'Eucharistie. Mais rien de plus. Ensuite, il n'apparaît pas vraiment dans les évangiles comme le fondateur d'une institution, mais bien plutôt comme un réformateur, un prophète, un promoteur et le premier acteur de nouvelles relations entre les hommes et avec Dieu. Le mot qui revient le plus souvent dans sa bouche pour désigner cet univers neuf qu'il propose aux hommes n'est pas du tout Église, mais royaume. Un royaume déjà là et pourtant encore à venir. Enfin, il convient de rappeler que les évangiles ne sont pas un reportage, mais un récit fondé sur l'événement Jésus lu à la lumière de la résurrection. Et cela non pas seulement parce que la résurrection illumine rétrospectivement la vie de Jésus, son passage parmi les siens, mais aussi parce que la mentalité du temps ne connaît pas le compte-rendu objectif. Ce n'est donc pas Jésus qui a fondé l'Église, en du moins comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il ait pensé au code de droit canonique, je ne suis pas sûr qu'il ait voulu faire des conciles, je ne suis même pas certain qu'il ait ordonné des prêtres, encore moins des diacres. Alors qui? Paul? Paul. Soupçons donc du côté de Jésus, donc, eh bien, on va essayer de voir un autre fondateur de l'Église. Paul, Pierre ou les apôtres. Certains n'hésitent pas à faire de Paul non seulement le fondateur de l'Église, mais le fondateur du christianisme. C'est lui, en effet, qui rompt avec le judaïsme, non seulement sur le plan pratique, il n'y a plus de circoncision avec Paul, mais aussi doctrinal, en proclamant la suprématie de la grâce, c'est-à-dire du don gratuit de Dieu, sur l'observance de la loi. On lit ça dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Et en affirmant que Dieu s'est choisi une descendance nouvelle, supérieure à l'ancienne. Encore les Galates, chapitre 4, verset 21. Et il va plus loin que Jésus, ce brave Paul. Cette thèse est soutenue avant-guerre par Joseph Klausner et qui a fait de nombreux adeptes, ne résiste pourtant pas longtemps à l'examen. D'abord, Paul n'a fait qu'utiliser les catégories rabbiniques existantes. Mais surtout, la relecture des évangiles montre à l'évidence que Paul a en réalité prolongé un mouvement amorcé par Jésus lui-même lorsqu'il proclame la fin de la distinction rituelle du pur et de l'impur, lorsqu'il dénonce l'hypocrisie des pharisiens qui font porter aux hommes des fardeaux qu'ils ne supportent pas eux-mêmes. Luc 11, que nous allons lire dans quelques jours d'ailleurs. Et enfin, lorsqu'il opère chez des non-juifs et de préférence le jour du sabbat des guérisons. En réalité, Paul s'inscrit lui-même dans un courant qui le dépasse et que revendique aussi Pierre lorsqu'il baptise Corneille. Pierre lui-même, pourtant appelé par Jésus à être le rocher sur lequel s'édifiera son Église, apparaît dans les Actes des Apôtres comme un suiveur et non pas un fondateur, comme un disciple et non pas un maître ou un initiateur. Rappelons-nous le baptême de Corneille. C'est après avoir eu une vision préparatoire, les animaux impurs offerts en nourriture, que Pierre est amené à donner le baptême aux païens incirconcis. Corneille, en déclarant: pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Acte 11. Et au Concile de Jérusalem, quelques années plus tard, Pierre va se ranger à la pratique déjà en cours chez Paul. Alors, si c'est pas Jésus le fondateur, si c'est pas Pierre, si c'est pas Paul, qui a fondé, qui a réuni, qui a retrouvé la première assemblée? Les femmes? Les femmes? Quelle est leur place aux femmes? Nous sommes devant une énigme. L'Église, qui s'impose au milieu des persécutions sévères, sans fondateur historique. Tout se passe comme si la fidélité au Christ vivant parmi les siens avait été plus forte que les vents contraires. Revenons au moment fondateur de la résurrection et des premiers temps de l'assemblée naissante. Ce sont des femmes qui, les premières, reçoivent l'annonce de la résurrection et la propagent. Et c'est la première communauté décrite dans les Actes qui apparaît comme la figure ecclésiale par excellence. Toutes ces personnes, instruites par les apôtres, mettent en œuvre de façon très concrète le commandement d'amour réciproque laissé par Jésus. Le fondateur de l'Église n'est donc ni Pierre, ni Paul ou Jacques, pas même Jésus. L'historien est en face d'un fait qui échappe à l'investigation. Le croyant, lui, est amené à réaliser et à proclamer que c'est l'Esprit promis par le Christ qui est la source de l'Église. C'est le même Esprit qui se trouve au seuil de la création du monde et au seuil de cette nouvelle création qui a lieu à la Pentecôte. C'est ce souffle, plus fort que toutes les tempêtes, qui institue la communauté dans l'amour, qui oriente Pierre, qui inspire Paul, qui pousse la communauté naissante vers les païens, qui permet la structuration d'une assemblée qui est appelée à vivre pour toujours sous sa conduite. Dans la perspective de votre chapitre, ce n'est pas le père bonhomme ou le fondateur des religieuses du calvaire, c'est le Saint-Esprit. Aussi, l'importance du coup d'une certaine fidélité, bien évidemment, à l'inspiration du Père Bonhomme, qui a été l'expression de ce que l'Esprit Saint donne comme don à son Église et au monde. Mais encore une fois, n'oubliez pas la source. Vous connaissez cette expression, quand le sage désigne la lune, le fou regarde le doigt. Ainsi donc, vraiment, quand on a regardé beaucoup plus loin, c'est l'Esprit Saint qu'on a évidemment à considérer dans la source même, non seulement de l'Église, mais aussi de votre histoire à vous. Et alors ce brave Esprit Saint, qu'est-ce qu'on lui fait dire? Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Pauvre Saint-Esprit. Regardez plutôt. Dès qu'on commence une réunion, allez, un petit chant au Saint-Esprit. Deux couplets, ça devrait suffire et devrait être là, non? Mais alors attention, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est pas, on ne s'en sort pas simplement en le convoquant par un petit chant, toujours le même, qui du coup le rendrait présent immédiatement. On passe un temps fou à penser que le Saint-Esprit serait l'éternel absent. On prendrait tout notre temps et toute notre énergie à appeler et à appeler encore. Comme s'il n'était jamais là. Comme s'il était tout le temps absent. L'absence réelle. Allons, allons. Le Saint-Esprit est en nous depuis notre baptême en plénitude. Plénitude. C'est nous qui ne sommes pas présents. C'est pas à nous de l'appeler, c'est lui qui nous appelle. L'Esprit et l'Église crient, ce sont les derniers mots de l'Apocalypse. C'est pas l'Esprit, c'est viens Seigneur. L'Esprit appelle, l'Esprit prie en nous. Nous avons à nous convertir par rapport à l'Esprit Saint. Vraiment, je le crois profondément. Parce que on a voulu faire des spécialistes du Saint-Esprit, les mouvements dits charismatiques, comme s'ils avaient l'apanage et la privatisation du Saint-Esprit à eux tout seuls. Quelle folie. Alors qu'encore une fois, il est donné en plénitude à ceux qui le reçoivent au baptême. Et puis de penser encore une fois qu'il serait l'éternel absent, l'absence réelle. Qu'il faudrait appeler, 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 viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Jusqu'à commencer toutes nos réunions par le même chant, en se disant, ça y est, il est là. Allons, allons. C'est Dieu. C'est autre chose que quelqu'un que l'on n'oblige à venir en claquant les doigts. En revanche, l'appel de l'Esprit Saint, c'est celui, a priori, qui devrait guider nos cœurs, nos institutions, l'Église, qui a priori le fait. Vous savez que les artistes, en tout cas, ont pu le représenter de manière assez, assez juste et assez belle. Si vous vous rendez à Saint-Pierre de Rome, vous en avez sans doute eu l'occasion, ce qui se trouve au-dessus de la chaire de Saint-Pierre, tout au bout, derrière le baldaquin du Bernin, derrière le tout du tout, au fond de la basilique Saint-Pierre, c'est ce magnifique, cette magnifique représentation du Saint-Esprit sous forme de colombe dans un énorme vitrail d'albâtre qui s'illumine avec le soleil. Vous avez dû le voir, j'imagine, pour nous rappeler que c'est bien lui qui guide l'Église. Ce n'est pas l'éternel absent. Simplement, on le représente par une colombe. Alors pourquoi par une colombe? Bien sûr, on va dire, c'est la colombe de Noé, la paix, etc. Bon, est-ce que c'était le Saint-Esprit avec Noé qui a simplement envoyé une colombe et un corbeau? Pauvre corbeau, alors c'est qui dans l'histoire? La colombe, c'est l'oiseau qui fait le moins de bruit, semble-t-il, en volant, semble-t-il, dit-on, croit-on en tout cas. Alors je ne sais pas, je ne suis pas ornithologue et je n'ai pas fait l'inventaire de tous les oiseaux du monde et du bruit éventuellement qu'ils font quand ils volent, mais il semblerait que ça soit un vol silencieux et très calme. Donc pour dire aussi que peut-être on le pense absent par ce calme, par ce silence. Pas d'agitation, pas de grand bruit, simplement sa présence. Je pense qu'il est important dans notre vie, dans les projets que l'on mène, dans les souhaits que l'on peut avoir sur notamment ce chapitre que vous allez vivre et les orientations qu'il va reprendre ou prendre ou envisager, de se souvenir de cette présence de l'esprit. Non pas comme celui que l'on claque des doigts en disant « viens esprit, par notre petite réunion et hop, tu es là », mais comme celui qui est déjà présent et qui demande plutôt notre présence à sa présence. Est-ce que toi, tu es là? Est-ce que toi, tu es présent à lui? Quand Jésus promet l'esprit à ses apôtres, qu'est-ce qu'il promet? Je vous enverrai, bon, le défenseur, celui qui vous fera vous souvenir de tout. Qu'est-ce que ça veut dire, se souvenir de tout? Surtout quand on perd la mémoire. Se souvenir de tout. Se souvenir de tout, c'est se souvenir finalement de toute la trajectoire, de toute l'histoire sainte, d'une certaine manière, de toute la trajectoire, de toute cette alliance que Dieu veut avec le monde, et ce en quoi finalement, Jésus en est la réponse. C'est quoi le commandement de Jésus? Le grand commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, aimez les uns les autres comme... Voilà, et puis s'aimer soi-même aussi dans cette histoire-là. Bon, une fois qu'on l'a dit, comment est-ce qu'on le vit? Et pourquoi est-ce que c'est ça le grand commandement? Si on vient à l'origine, à la toute origine de la Genèse, avec Adam et Ève, Adam et Ève, bien évidemment, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Adam et Ève, c'est vous et c'est moi. D'accord? Il n'y a pas de monsieur Adam ou de madame Ève. C'est bien vous et c'est bien moi, les prototypes de l'humanité. C'est quoi le drame d'Adam et Ève? Ne pas faire confiance à Dieu? Oh oui, oh... Cette histoire-là de fruits à ne pas manger, d'arbres à ne pas manger, on va le faire quand même. Pas confiance à Dieu, c'est pas vrai. Alors, sifflé par un serpent qui parle, mais dehors de ça, il y a un manque de confiance en Dieu. Manque de confiance en soi. J'avais peur, je me suis caché quand tu m'as appelé. Peur, le manque de confiance en soi, le manque de cette capacité à exister. Et puis, manque de confiance en l'autre. C'est pas moi. C'est elle qui m'a dit. Ah ben, c'est pas moi non plus, hein. C'est le serpent qui m'a dit. Plus de confiance en soi. En Dieu, en soi, en l'autre. Et Jésus va nous dire, aime-toi, toi-même. Aime Dieu. Aime-toi, toi-même. Aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la réponse, c'est l'antidote à ce triple manque de confiance qui est à retrouver. La réponse, finalement, à ce fameux péché dit originel. Encore une fois, un péché originel, c'est pas de manger des pommes. Sinon, ça nous arrive très très régulièrement de faire des péchés. D'accord? Pour tous ceux qui aiment les pommes, au moins. C'est véritablement d'entrer dans ce manque de confiance. Et ce manque de confiance, dont on ne peut pas faire grand chose, parce que la confiance, ça ne se décrète pas. Confiance en soi, qui peut dire qu'il a pleinement confiance en soi? On est tous terrorisés par la vie, on ne sait pas trop, manque de confiance, est-ce qu'on aurait pu, est-ce qu'on aurait dû, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est pas comme ça, et j'avais su. Manque de confiance en Dieu, alors ça c'est encore plus évident, sinon on serait les saints déjà. Et alors dans l'autre, n'en parlons pas. Nous avons tous été trompés au moins une fois. On nous a tous pris pour des idiots au moins une fois. Et nous-mêmes avons pris les autres pour des idiots au moins une fois dans notre vie. Donc évidemment que la confiance entre les relations et entre les uns et les autres aussi est blessée. Ce sont les trois lieux de fracture, les lieux de blessure, dont l'antidote est l'amour. On en parlera demain de l'amour, donc je ne vais pas aller plus loin. Ce sera le verbe dans l'amour, enfin pas le verbe, pardon, le mot dans l'amour, demain l'expression qu'on développera. Mais je l'introduis déjà comme une réponse, en tout cas, à cette triple blessure qu'on appelle le péché des origines, c'est-à-dire le péché partagé par tous. Un péché, bien évidemment, vous savez aussi ce que c'est qu'un péché. Un péché, c'est pas simplement la liste très très complète de j'ai tiré les cheveux, j'ai mangé trop de chocolat, je fais exprès de prendre des choses que bien évidemment vous ne faites pas, mes sœurs, hein. Ou peut-être plus. Mais on voit très bien à quoi ça peut ressembler, ces espèces de listes que l'on se donne. Alors que le péché, dans le sens biblique, c'est rater, manquer l'objectif, la cible. Comme quand on tire avec une flèche et un arc vers une cible et que cette cible est ratée. C'est ça le mot péché, rater cible, manquer la cible. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on rate la cible? Eh bien on retire, on tire à nouveau. On tire à nouveau une flèche, on se réorganise pour de nouveau reprendre l'objectif, le but. Et ça passe par des termes comme conversion, se retourner. Là c'est que vraiment on a fait un péché en tournant le dos au but. Se convertir c'est simplement reprendre le bon chemin, alors derrière ou devant, ça c'est comme on veut, mais... En tout cas, de pouvoir retrouver cette route de laquelle on s'était écarté. Et cela passe par l'amour. Et cela passe par la confiance. S'il y en a une, peut-être, qui a échappé un peu à tout ça, c'est l'Immaculée Conception. Parce que elle, ça n'a rien à voir, l'Immaculée Conception, d'avoir été gentille. Marie, je ne sais pas si elle a été gentille ou si elle ne s'est pas énervée, c'est pas la question. En revanche, qu'elle ait fait une confiance absolue à Dieu, oui. Qu'elle a su se faire confiance à elle-même aussi. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance. Parce que quand vous êtes une gamine à qui on dit « tu vas être enceinte », imaginez la scène quand même. Hein. « Tu vas être enceinte », bon mais attends, je suis promise à un mariage, oui, mais tu vas être enceinte. Et voilà, tu devras l'annoncer d'une certaine manière à ton promis. Joseph, je suis enceinte. Ah, pas de toi. Oh, d'un ange, enfin d'un ange qui m'a annoncé que je suis enceinte. Il faut une certaine confiance en soi et en Dieu pour y croire. Si quelqu'un vient vous le dire là maintenant en frappant au carreau qui est juste là, vous appelez immédiatement le numéro 18 ou l'hôpital psy en disant il y a une folle qui est en train de se balader dans le coin. Non? A priori, c'est pas la chose que l'on croit spontanément, dire oui, mais bien sûr. Et pourtant, voilà, confiance aussi de Marie en Joseph, parce que punaise, c'est pour ça qu'elle est, dit-on, préservée du péché, parce que justement, elle, par grâce, par don, j'entre pas là-dedans dans l'Immaculée Conception, mais en tout cas, a résolu cette histoire de la triple blessure, dans l'amour qu'elle vivait déjà, pour elle-même, d'une certaine manière, dans la considération qu'elle avait pour elle, pour un autre, qui est Joseph, son époux, son futur époux au moment de l'Annonciation, mais son époux ensuite, et bien sûr pour Dieu. On va regarder, contempler l'image que vous avez au verso, mais on va la regarder en grand à l'écran. Elle est un peu plus claire, plus nette à l'écran, je pense, qu'au verso de votre papier. Je sais pas si on peut peut-être éteindre les lampes pour que ça soit pas trop clair, pour qu'on voit mieux les détails, si vous voulez bien. Et je vous invite à prendre un petit papier, un petit stylo, rapidement, et de noter ce que vous voyez spontanément, ce que vous reconnaissez spontanément comme scène, et ce qui en même temps ne va pas avec la scène qu'a priori vous reconnaissez spontanément. Ça ne va pas, ou du moins est étrange sur certains points. Et après, j'en ferai un petit commentaire. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez a priori? Dès que vous voyez ça, vous pensez à quoi? Aux apôtres qui attendent. Ça serait une Pentecôte. Vous êtes d'accord? Peut-être. Ah, il y a un doute. Vous avez compté le nombre de personnes? 12. Qui c'est le gars au milieu là? Avec une couronne sur la tête. C'est pas la Vierge Marie, hein? D'accord. Dieu le Père, en dessous comme ça? Dans une grotte noire, là? Ah. Et c'est qui cette espèce de chose là-haut, en haut à droite, là? Un chauve qui est toujours représenté comme ça? Comme personnage, hein. Celui qui n'a pas de, quand on a l'habitude de représenter un petit peu, notamment en Orient, les icônes, celui qui est sans barbe, en général, c'est le jeune Jean. D'accord? Un bon barbu, un peu cheveux blancs, Pierre. Le chauve, c'est Paul. Qu'est-ce que vient faire Paul à la Pentecôte? A priori, ça s'est pas encore fait à ce moment-là. Et la Vierge Marie, puisqu'on nous dit dans le texte de la Pentecôte qu'elle est présente aussi, avec des femmes, elle priait. Elle est où? Et puis ce vieillard là en bas, bah ce vieil homme en tout cas avec une couronne sur la tête, et puis qui tient un truc un peu bizarre dans les mains, là, à l'âge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une Pentecôte finalement? Alors je vais vous en faire un petit commentaire. Pour un spectateur occidental, donc nous, accoutumés à la représentation de la Pentecôte, l'icône orthodoxe, pour le moins, surprend. On reconnaît bien sûr quelques traits d'épisode, 12 hommes assemblés dans une maison, sans doute le Cénacle, reçoivent l'esprit sous forme de langue de feu. Les langues de feu, on les voit, alors, on les voit vaguement, hein, c'est au niveau des rayons qui partent d'en haut. Mais la ressemblance s'arrête là. Pourquoi Matthias est-il remplacé par le personnage qui fait face à Pierre? Rappelez-vous, Matthias a remplacé normalement Judas. Alors là, il y a un personnage en face de Pierre qui est Paul, manifestement, comme le prouve le fait qu'il tienne en main le livre de ses épîtres. Matthias n'est pas là. C'est Paul qui est représenté. Et enfin, qui est cet étrange personnage en bas de l'image? Plutôt que d'offrir des restitutions fidèles au texte des apôtres, comme les Occidentaux, l'icône orthodoxe cherche à en révéler le sens. Les apôtres sont assis en demi-cercle. pour nous rappeler que le nom grec de l'Église signifie rassemblement, ecclésia. L'icône de la Pentecôte est avant tout l'icône de l'Église, une Église que Dieu veut. Ils sont en demi-cercle, c'est-à-dire que le cercle n'est pas fermé, car de nouveaux peuples ne cessent de s'agréger à ces 12 premiers. Personne ne préside. Tous s'assemblent autour d'une place vide entre Pierre et Paul. Il n'y a rien. La place est laissée vide. Normalement, ce serait la place de celui qui préside. Le véritable maître de l'Église, c'est le Christ qui siège invisiblement au milieu de tous. Au milieu, le personnage couronné représente le monde temporel dans lequel les marques de pouvoir ont encore cours. Il tient en main, au milieu d'un linge, en signe d'infini respect, les 12 rouleaux des prophètes, parce que le monde a déjà reçu la révélation par les prophètes, les 12 grands prophètes. Mais celle-ci n'est pas complète. Les 12 disciples tiennent eux aussi 12 rouleaux. Et beaucoup tendent la main vers le monde en signe de bénédiction. Car la tâche de l'Église est de bénir et d'enseigner le monde. On n'est donc pas dans une représentation comme une photo, si vous voulez, les Occidentaux, voilà, on se dit, le monde oriental a ce génie, d'une certaine manière, de toujours associer ce qu'il montre dans ses œuvres d'art, toujours associer celui qui regarde. Et quand on regarde cette œuvre d'art, cette icône, eh bien, on comprend que d'abord, il y a de la place pour nous dans ce cercle qui n'est pas fermé, ce cercle de ceux qui sont assis là tout autour. On peut s'y asseoir, moi aussi. Le monde qui ouvre ses mains, on le connaît, on le regarde parce qu'on y vit. Le Christ préside à cette assemblée, préside à ce que nous sommes. Et ensemble, si nous sommes dans cette dynamique des autres apôtres aussi qui sont là, nous comprenons que notre tâche en Église est de bénir et d'enseigner le monde. Alors enseigner, ça ne veut pas dire avoir réponse à tout et montrer à tout le monde que tout le monde a tort et qu'il faut bien bien vivre comme nous, on a bien compris les choses. Enseigner le monde, c'est lui faire connaître l'Évangile. Attention. C'est pas lui apprendre une leçon de mathématiques. J'ai rien contre les mathématiciens, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment donner l'Évangile au monde et surtout le bénir. Faire circuler cette bénédiction. Faire circuler la bénédiction, le terme de bénédiction, c'est reconnaître, dans le sens hébreu du terme, hein, c'est reconnaître l'action bienfaisante de Dieu dans le monde, reconnaître sa grâce à l'œuvre. C'est ça, bénir quelqu'un. Tu es béni parce que Dieu agit en toi. Tu es béni parce que l'Esprit Saint agit en toi. Tu es béni parce que tu es infiniment aimé de Dieu. Tu es béni parce que tu es l'objet de l'alliance, de l'obsession, du rêve de Dieu. L'Église n'est jamais autant Église que quand elle bénit, console, relève, encourage. L'Église perd de son sens, perd même de son essence quand elle condamne, juge, exclut. Elle n'est plus l'Église. Elle est tout à fait une institution humaine. Mais l'Esprit autre chose, et reprenez les dons de l'esprit, déclinez le fruit de l'esprit pour savoir ce que l'Église a à faire. C'est ce même esprit qui a présidé à la fondation de votre congrégation, dont le père Pierre Bonhomme en a été l'agent, le serviteur, dont vous aujourd'hui, au même titre que le Père Bonhomme, vous êtes les dépositrices de ce charisme, de ce don de l'Esprit fait à l'Église et au monde. Avec la même incertitude qu'au début, avec la même fragilité peut-être, avec les mêmes questions. Tout ça à offrir de manière nouvelle, à traduire de manière nouvelle par ce chapitre qui va s'ouvrir au service du monde, comme on dit, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Du coup, ça vous libère si c'est l'esprit qui est le maître, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mettez-vous à l'écoute de l'esprit. N'en faites pas l'éternel absent ou l'absence réelle, en l'appelant comme s'il n'était pas là, mais en le reconnaissant à l'œuvre et en le laissant vous parler. C'est l'heure. On va conclure par cette prière encore que j'ai envie de nous redonner tous les jours. Nous l'avons déjà prié hier, nous allons la prier tous les jours, justement à la fin de notre deuxième intervention, l'après-midi. Cette prière au Père Bonhomme. En même temps, en y reconnaissant l'œuvre du Seigneur pour votre congrégation, en y associant ce qui est en train de se faire de bon dans le monde par votre congrégation, en y voyant aussi le lien que votre congrégation entretient au milieu du peuple saint qu'est l'Église aujourd'hui, participant à sa mission de bénir, consoler, accompagner. Dieu notre Père, tu as mis au cœur de ton prêtre Pierre Bonhomme un amour passionné pour Jésus-Christ, une confiance filiale envers Marie et un goût constant de la prière. Attentif aux appels de l'Esprit-Saint, il a témoigné d'une ardeur missionnaire que rien n'a pu décourager. Nous t'en prions, accorde-nous par son intercession les grâces que nous te demandons. Daigne glorifier ton serviteur et aide-nous à marcher comme lui dans la foi et l'espérance par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bienheureux Pierre Bonhomme. Voilà, je vous laisse, si vous souhaitez contempler cette œuvre de la descente de l'esprit, peut-être poursuivre, si vous ne l'avez pas déjà fait, par la lecture qu'on a eue ce matin, une méditation autour de Jérémie, le texte, peut-être prolonger, si vous ne l'avez pas déjà fait, les questions, les petites questions qui étaient proposées aussi sur la feuille pour vous aider à faire une relecture de votre vie, du moment où vous êtes aujourd'hui, conduite par l'Esprit-Saint au cœur de l'Église qui enseigne, qui console, qui bénit. Merci et à tout à l'heure.